Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Radio Campus Paris et je suis Aura de Gouinement lundi. Alors ce soir exceptionnellement nous ne sommes pas en direct pour cause de maladie et de toute autre malédiction de l'hiver, mais nous vous proposons tout de même un super programme avec la découverte de l'ouvrage collectif Gwyn. Après la sortie du livre PD en 2023, on attendait avec impatience son pendant lesbien et ses choses faites avec Gwyn au pluriel. Gwyn, c'est selon l'éditeur un ouvrage collectif pour penser les identités lesbiennes contemporaines et les rendre visibles. Et c'est à notre connaissance une initiative inédite. On peut y lire 8 textes écrits par 8 autrices, activistes et artistes. Le recueil a été coordonné par Marie Kirschen et Maëlle Lecor, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Ce sont donc 8 textes qui sont autant de parcours et d'identité Gwyn, aussi différents dans le fond que dans la forme. On y trouve des essais, de la fiction et même de la poésie. C'est à la fois émouvant, surprenant, politique. Bref, le génie lesbien a encore frappé. Et on vous laisse avec Maëlle Lecor qui vous parle de l'ouvrage collectif Gwyn. Bonjour Maëlle Lecor.
Bonjour.
Tu es journaliste indépendante et travailleuse sur les questions LGBTQIA+. Tu as travaillé chez YAG, tu as cofondé le média Committed en 2018 et on a été la rédactrice en chef adjointe. Tu as ensuite rejoint Mademoiselle et tu collabores avec Mediapart, Politis, Télérama, Marie-Claire. Tu écris aussi des chroniques judiciaires, la PMA pour les nuls en 50 notions chez First Edition en 2020. Et tu as écrit le texte bancal dans cet ouvrage collectif Gwyn, que tu as également coordonné avec Marie Kirschen.
Alors on va commencer par une question assez classique, mais donc comment est née l'idée de cet ouvrage collectif ?
L'idée en fait à la base, elle vient du fait tout simplement que Point avait sorti un ouvrage qui s'appelle PD, donc un ouvrage collectif dédié à aborder toute la richesse, la diversité des questions gays justement à travers ce prisme très politique de se réapproprier l'insulte PD. Donc c'est un ouvrage qui est sorti en mai 2023 si je ne me trompe pas. Et je suivais un petit peu le cheminement de cet ouvrage-là, parce qu'un des membres du collectif, c'est Anthony Vincent, et on était collègues ensemble chez Mademoiselle, donc il m'avait parlé un petit peu, qui participait à cet ouvrage. Moi, je trouvais ça absolument génial qu'un livre arrive en s'appelant PD. Je trouvais ça vraiment hyper, hyper fort, hyper puissant. Et lui m'avait fait un peu un espèce d'appel du pied en me disant « Ah, ce serait super de faire la même chose pour les lesbiennes, et ça s'appellerait Gwyn. » Et j'étais en mode « Oui, c'est ça, ce serait bien. » Mais au fur et à mesure qu'il me le répète et que ça cogite, je me suis dit « Ah, c'est vrai que ce serait pas mal. » Ce serait même assez logique, finalement, que Point fasse un ouvrage qui s'appelle Gwyn dans la foulée. Et donc, j'ai juste cherché le mail de la directrice éditoriale qui était à Point féministe à l'époque. Et j'ai envoyé un petit mail un peu innocent en disant « Bonjour, j'ai vu que vous sortiez PD. Est-ce que vous faites Gwyn par hasard ?» Parce que voilà, je trouvais ça intéressant que ça se fasse, quoi. Et voilà, c'était très, très, très innocent. Et j'ai une réponse assez rapide qui me dit « Ah bah oui, rencontrons-nous, discutons. » Et bon, pas très bien. Visiblement, vous n'y aviez pas encore pensé, donc parlons-en. Et là, je rencontre donc Gabrielle Allarin, donc, qui était la directrice éditoriale de Point féministe. Et qui me dit « Ah, c'est très drôle, j'ai reçu un mail quasi similaire au tien il y a quelques jours. Je ne sais pas si tu connais Marie Kirschen. » Et là, je demande « Ah bah oui, je connais très bien Marie Kirschen. » Parce que voilà, Marie Kirschen est aussi journaliste. Elle travaille elle aussi sur les questions LGBT. Évidemment qu'on connaît nos travails respectifs. Et donc, très rapidement, avec Marie, on se met en contact. On se dit « Bon, on y va. » Vu que Point féministe a l'air plutôt partant, mais qu'il leur faut quand même un petit peu de quoi ça va parler. Nous, ça nous semble très évident. On est Gwyn, de quoi ça va parler. On a plein d'idées, on a plein de noms qui nous viennent. Il fallait quand même convaincre un petit peu Point de se dire « Ok, bon, on a fait PD, est-ce que c'est pas suffisant ?» Non, c'est absolument pas suffisant. On parle pas du tout des mêmes choses, on parle pas des mêmes enjeux, on va pas du tout raconter les mêmes histoires, même s'il y a des points communs qui sont intéressants. Mais voilà, il y a aussi plein de choses qui n'ont rien à voir. Et finalement, Point a donné son go et on a pu commencer à travailler avec le collectif. Ce chouette ouvrage est arrivé en novembre dernier. Voilà pour la petite histoire, très condensée.
Et d'ailleurs, comment les autrices ont-elles été choisies ?
Alors, c'est très compliqué parce que c'est un format qui n'est quand même pas si long. Hein. On a pensé à plein de noms, pour être très honnête avec Marie. Évidemment, il fallait resserrer. On est vraiment allé chercher des univers d'autrices qui, pour certaines, avaient déjà parlé d'identité lesbienne et pour d'autres, pas forcément aussi ouvertement, qui viennent d'univers différents, qui se connaissaient, qui ne se connaissaient pas ou qu'on ne connaissait pas forcément d'ailleurs de notre côté, enfin, dont on connaissait juste le travail. Et voilà, on a fait un petit peu ce travail d'articuler un collectif qui apporterait chacune une petite pièce un petit peu différente de par leur vécu, de par leur travail, etc. Globalement, ça s'est fait comme ça pour réunir 8 personnes. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est un petit noyau. Hein. C'est vrai que si on avait pu ajouter des textes en plus, etc., bah, voilà, ça aurait été merveilleux. Mais voilà, ça prouve aussi qu'il y a encore plein de choses à écrire. C'est pas exhaustif. Il y a encore plein de thématiques qu'on n'a pas forcément abordées parce qu'on ne pouvait pas tout aborder. Mais il y a aussi des thématiques qui ne se retrouvent pas ailleurs. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce bouquin, quoi.
Pourquoi ce titre Gwyn ? Alors, c'est Gwyn au pluriel, hein. Pourquoi Gwyn plutôt que lesbienne ?
Ouais, c'est une question amusante venant de Gwyn Monlundi, évidemment. Je pense que vous avez quand même une petite idée de la réponse. C'est vrai que c'est toujours un sujet important à aborder, je trouve, la question de la réappropriation de l'insulte, déjà, de manière très... pratico-pratique, Gwyn existe dans la lignée de ce que PD a permis. PD est sorti et derrière, ça nous tenait un peu la porte pour pouvoir proposer un ouvrage sur les lesbiennes. Ça nous paraissait hyper logique de continuer dans cette lignée-là, justement, d'utiliser le mot Gwyn. Parce que voilà, c'est cette dynamique de se dire, oui, c'est un mot très puissant, très fort, qu'on est encore à un moment où c'est d'autant plus important de se réapproprier nos identités et de combattre encore les discriminations qui nous touchent de manière extrêmement violente, variée et insidieuse parfois. Mais voilà, l'idée d'avoir un bouquin qui s'appelle Gwyn, enfin moi je suis toujours un peu émue de le voir en fait. Et on a eu plein de retours aussi de personnes qui nous disaient, enfin c'est quand même fou d'avoir ce bouquin qu'on peut acheter, mettre devant la caisse et payer et ensuite lire et le revendiquer. Ça reste quand même un mot hyper fort pour plein de personnes. Ça reste aussi un mot violent pour plein de lesbiennes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de cette réappropriation de l'insulte. Et c'est tout à fait OK. Tout comme PD n'est pas forcément un mot facile à s'approprier quand on est gay soi-même, je pense que c'est la même chose. Il y avait peut-être cette petite différence que même dans notre communauté, même le mot lesbienne n'est pas si évident. Vu que PD existait, on pouvait pas revenir en arrière et dire « Ah, ce livre va s'appeler lesbienne ». Les hétéros, ils sont pas toujours à l'aise avec le mot lesbienne, ce qui fait que même certaines lesbiennes sont pas à l'aise avec le mot lesbienne. On a plein d'exemples de personnes qui font des circonvolutions pas possibles pour dire « Oh, des femmes qui aiment les femmes, des homosexuels ». Chacun est à l'aise avec tel ou tel terme et c'est très OK d'un point de vue personnel. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, la nécessité de dire le mot lesbienne et aussi de conserver ce mot « Gwyn » comme quelque chose de très fort. Moi, je vous redis à chaque fois, mais je trouve que le fait d'avoir ce mot « Gwyn » au pluriel, ça a aussi une résonance politique dans le sens où c'est ce que je défends à titre personnel, mais c'est aussi ce sur quoi j'ai voulu écrire dans mon texte, c'est-à-dire que être Gwyn en solitaire, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est cet élan collectif d'être dans une communauté et de militer ensemble et de lier des amitiés et des relations entre Gwyn. C'est aussi cet élan collectif qui, moi, m'épanouit en fait à titre personnel. Voilà, je trouve que c'est aussi ce truc très, très puissant d'être lesbienne tout ensemble, d'être Gwyn tout ensemble qui met un peu de sel à tout ça, quoi.
Ouais, puis en plus c'est une couverture qui voilà, elle est quand même violette, orange sur violet, on voit vraiment bien le Gwyn. Ouais. C'est expliqué en avant-propos, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu l'histoire de ce mot Gwyn ?
À la base, on est sur un mot qui désigne des femmes prostituées, donc déjà des femmes qui sont à la marge en fait. Je ne vais pas forcer le trait en disant à la marge du système hétéropatriarcal parce que ce n'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est des femmes qui sont déjà des femmes de mauvaise vie, on va dire. Et de fait, au fur et à mesure, c'est un terme qui va désigner les lesbiennes. Ça, historiquement, c'est aussi intéressant de le voir. Mais même le mot lesbienne, aujourd'hui, voilà, reste très connoté, une valeur péjorative encore très forte. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est dur de se l'approprier. C'est une valeur péjorative, voire insultante, aussi liée à la culture pornographique et pas à la culture porno, queer ou éthique. Faites pas et pour les lesbiennes, mais au contraire, faites pour le regard hétéro et masculin. Donc vraiment, on est, en tout cas pour le terme lesbienne et pour le terme Gwyn, c'est vrai que voilà, on est sur un historique qui est un petit peu particulier.
Le recueil aborde de nombreux sujets, du plus léger, l'élément ex de Marie Kirchen qui parle de rester amie avec ses ex, au plus politique, à mes camarades radicales, à toutes les autres, de l'argent gratuit, d'Amandine Nagitsch, qui évoque le classisme dans la communauté. Était-ce une volonté ? Y a-t-il eu un mot d'ordre donné, une ligne éditoriale à suivre ?
On a fait une réunion pour que tout le monde se rencontre, une réunion par Zoom, parce que tout le monde est un petit peu à distance. Fort heureusement, tout le monde ne vient pas de Paris, donc c'est une très bonne chose aussi. Et l'idée, c'était vraiment de faire ce tour de table, un peu pour que les unes et les autres se présentent, et aussi que chacun, chacune puisse dire « Ok, moi j'ai envie de travailler sur telle ou telle thématique ». On n'est pas arrivé avec un cahier des charges, et l'idée, c'était de permettre à tout le monde d'explorer une thématique, d'explorer une forme aussi, parce qu'on a des formes un petit peu différentes. Par exemple, y a Noémie Grunenwald qui est arrivée très rapidement en nous disant, déjà très enthousiaste à l'idée de participer, et aussi qui avait envie d'explorer une forme poétique. C'était vraiment une volonté de sa part, et nous, on n'avait aucune raison de dire « Ah non, on veut quelque chose de très classique », au contraire, ça nous plaisait. Ça permettait à la fois d'aller sur des choses un petit peu plus littéraires, et en même temps de développer une pensée politique, militante, etc., sur une thématique, parfois, comme tu as dit, un peu légère, et parfois sur des choses un petit peu plus, un petit peu plus confrontantes, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on est arrivé en disant à chaque personne, de quoi tu as envie de parler, très, très simplement. Je pense que ça aurait été un peu restrictif en termes de créativité, déjà, d'une part, de dire « Ah, toi, je te verrais bien écrire là-dessus. Ah, toi, je te verrais bien écrire là-dessus. » Et au-delà de ça, ça aurait été un peu, je pense, un problème de dire à telle ou telle autrice, de dire « Ah, j'aimerais que tu écrives sur cette partie de ton identité. » Parce que parfois, la personne n'a juste pas envie d'être un peu le token de la discrimination, de l'oppression qu'elle subit, et elle a envie d'écrire sur autre chose. C'était aussi de se dire on ne peut pas faire un catalogue avec chaque autrice qui représente telle ou telle oppression, tel ou tel objet à dénoncer, ou voilà, quelque chose comme ça. Ça permettait quand même à chaque personne de se sentir libre, de décrire un peu quelque chose qu'elle n'avait pas forcément exploré avant, en fait, ou d'explorer quelque chose dans la continuité de ce qu'elle avait déjà fait. Par exemple, je pense à Erika Nomeni, où vraiment, je ne sais pas pour les personnes qui ont lu L'amour de nous-mêmes, qui est son premier roman chez Hors d'atteinte, je trouve qu'il y a plein d'échos dans son texte qui résonnent un petit peu avec son premier livre, mais du coup, elle est allée sur une forme un petit peu originale, de dialogue, d'allégorie entre solitude et sobriété, que je trouve hyper poétique aussi, hyper créatif, d'aller vraiment sur cette exploration d'allégorie. Mais voilà, c'est un peu dans la lignée de ce qu'elle a déjà écrit, et continuer à explorer des thèmes qui lui sont chers, en fait.
Je voudrais juste rajouter que là, j'ai dit un texte léger, mais je trouve que même dans les textes légers, c'est hyper engagé, parce que l'intime est politique, et il y a quand même cette dimension... Il y a une dimension politique, enfin, en tout cas...
Ouais, complètement. Je trouve que Marie, justement, elle explore ce truc qui peut paraître un petit peu... un peu frivole, mais en même temps, oui, ça touche parler de nos identités et a fortiori de nos couples, de nos amitiés, de nos relations. C'est aussi mettre le doigt sur le fait que dans une société hétéropatriarcale, on arrive quand même à proposer d'autres modèles. Je trouve que ce qui résonne aussi beaucoup dans son texte, c'est à la fois une forme de désacralisation du couple, mais aussi nos amitiés sont importantes. Et je trouve que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, que ce soit dans les essais ou dans la littérature. Je pense que Un désir démesuré d'amitié de Hélène Giannichini, par exemple, qui en ce moment est un livre dont on parle beaucoup, notamment dans la communauté lesbienne. Voilà, l'idée d'explorer ces thématiques et de dire l'amour est le seul sentiment valable qu'on ait besoin d'explorer dans les littératures. Explorer les amitiés et valoriser les amitiés, les célébrer aussi, ça compte. Et parler de cette idée que partir d'un truc un peu cliché de notre communauté, toutes les lesbiennes restent amies avec leurs ex. Vrai ou pas vrai, peu importe. Je pense qu'on peut nuancer plein de choses, mais c'est quand même un truc assez amusant de se dire que soit on emménage au bout de 2 semaines avec la meuf qu'on vient de rencontrer, qu'on reste amis avec nos ex, ce genre de choses. Ces clichés-là, ils existent pour une raison, et je trouve que justement aller chercher ce qu'il y a d'un peu vrai, ce qu'il y a d'un peu politique, s'il y a un peu de dissonant dans le monde dans lequel on vit et qu'on propose, ça c'est hyper intéressant, en fait. Et je trouve que Marie, elle l'a fait de manière à la fois en plus hyper drôle et en même temps vraiment en allant chercher mais comment ça se fait, en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait que pour beaucoup, pas toujours mais pour beaucoup, et parfois faut pas surtout, on reste amis avec nos ex, et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça dit aussi de nos familles choisies, en fait, cette notion de famille choisie qui est aussi très chère à nos vécus, à notre communauté, qu'est-ce que ça raconte de tout ça. Et oui, derrière les trucs un peu pas sérieux, en fait, il y a toujours des trucs un peu plus deep, quoi.
Du coup, on va en profiter pour vous inciter à aller écouter l'émission sur les ex qu'on a faite il y a quelques mois, donc qui est encore sur le podcast de Good Morning Lundi. Voilà. Quand on raconte tout ça, est-ce que finalement, être lesbienne, ça implique d'être engagée ? Avec le fait d'être lesbienne, ça fait qu'on est engagée ?
À titre personnel, j'aurais tendance à dire oui. Je pense que c'est un peu ce qui ressort aussi de notre avant-propos collectif dans Gwyn, c'est-à-dire que oui, être attiré par les femmes de manière assez simpliste, comme ça, on pourrait dire que c'est juste une toute petite dimension de nos vies et de notre vie privée, à la rigueur, on pourrait établir ça de cette manière-là, que ce soit juste une question de sentiments, d'attirance sexuelle, de couple. Alors on peut justement réfléchir à autre chose de ce que veut dire la vie privée dans ces cas-là. Mais voilà, on pourrait dire que oui, être juste attiré par les femmes, peu importe qu'on dise lesbienne, gay, homosexuel, bah, ce soit juste ça. Bah, je trouve que ce qu'on essaie de montrer aussi dans ce livre, c'est que, en fait, dans plein de circonstances, en fait, ça dépasse ce cadre-là de juste de l'intime, de la vie privée, et que dans une société dans laquelle l'hétérosexualité est encore une valeur cardinale, être lesbienne ou être attirée par les femmes, en fait, ce sera jamais juste ça. Ça va impliquer plein d'autres choses dans nos vécus, dans la manière dont on se construit en tant qu'enfant, en tant qu'ado, comment on envisage le couple, comment on envisage les amitiés, comment ça infuse dans notre travail, dans nos relations avec les autres, comment ça influe sur je sais pas, juste notre manière d'être dans l'espace public, par exemple, et quand ça se cumule évidemment avec d'autres formes d'identité, hein, bien sûr que ça change des choses. Donc pour moi, oui, de fait, être lesbienne, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que juste aimer les femmes, c'est déjà super, c'est déjà très très bien. Ça forge un autre regard sur l'ensemble de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, dans la culture aussi qu'on a. Voilà, on vit quand même dans une société, on vit dans une société, j'arrête pas de dire ça, on vit dans une société où on est abreuvé d'hétérosexualité dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on consomme, et en fait, bah, vivre autre chose et ne pas se voir, c'est déjà se construire forcément différemment. Donc forcément, on va être autre chose au monde que ça.
Et on peut aussi sentir une forme de sororité dans le livre. D'ailleurs, chaque texte est précédé d'une présentation écrite par l'autrice du texte précédent. Comment vous est venue cette idée ?
Bah, c'est tout simplement une idée de PD qu'on a voulu très naturellement reproduire. Je trouvais que c'était aussi très beau ce lien entre chaque texte, les uns avec les autres. Et nous, en tant que co-coordinatrice avec Marie, c'est vrai qu'on avait un peu l'œil un peu partout. On s'était réparti un petit peu les textes à relire, faire des retours avec chaque autrice. À partir du moment où on a dû établir cet ordre des textes dans le livre, parce que l'ordre est évidemment un petit peu réfléchi, ben on a pu enfin dire « Ah ok, donc telle personne va écrire l'intro de telle personne et de telle personne ». Et là, c'était le premier moment où les uns et les autres se relisaient un peu. Et du coup, ça, c'était assez chouette parce que voir les premiers mots arriver de chaque texte, ouais, c'est vraiment créer un petit chaînon entre chaque vécu, même s'ils sont très différents. Et en même temps, ben, y a des résonances. Hein. Voilà, c'était intéressant de voir comment certaines choses peuvent faire des petits échos dans les vécus, même s'ils sont parfois très différents. On aurait pu avoir une succession de textes les uns après les autres, hein, ça aurait été très ok, mais c'est vrai que cette idée d'introduire chaque personne après soi, je trouve ça sonnait vraiment bien. Et voilà, très naturellement, on s'est dit que bah, c'était aussi une manière de créer du lien dans ce bouquin. Voilà.
Je trouve ça très réussi, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent, et le fait que chaque autrice ait au moins fait l'effort de lire au moins un texte. Les textes sont sincères. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Vraiment, ça donnait un beau lien et, pour un livre vraiment collectif.
Ouais, ça apporte un regard en plus. Oui. Aussi, ça vient ouvrir le texte à un endroit. Et on vous propose une pause musicale avec Les Astres de Laura Cahen. On se retrouve juste après pour la suite de l'interview avec Maëlle Lecor.
Je te reconnais, je crois, mais on s'est jamais vu. Pourquoi je ne veux plus? seconde où tu vas toute nue. Donne-moi la main pour échapper au monde. J'oserai l'inconnu. Te dire
du recueil en général. Maintenant, on va plus approfondir sur ton texte. Donc, dans ton texte, qui est intitulé « Bancal » au féminin, tu racontes ton parcours de l'hétérosexualité à la bisexualité et au lesbianisme. Et tu parles aussi de la complexité de se reconnaître lesbienne dans un monde, ce que tu disais tout à l'heure, façonné pour et par les hétéros et qui conditionne les femmes à aimer les hommes. Et tu parles également de ton sentiment d'illégitimité dans la communauté lesbienne. Donc pourquoi toi t'as choisi de parler de ça ?
Je pense que c'est un peu un truc que j'avais en tête depuis quelques temps et que participer à Gwyn était vraiment l'occasion un peu rêvée de produire quelque chose d'un peu personnel, d'une forme courte en plus. Donc je pense que c'est un peu le cheminement de ce à quoi je réfléchissais depuis pas mal de temps maintenant. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que j'avais déjà beaucoup écrit là-dessus, mais de manière très très éclatée, plein de petits textes, plein de petites choses. Et en fait, j'ai eu un peu envie de me remettre dans ces notes et de me dire, OK, comment je peux articuler cette pensée-là ? Et de fait, de fil en aiguille, je me suis un peu retrouvée à dire, OK, qu'est-ce qu'on a dans mes souvenirs qui pourrait illustrer un peu, ou en tout cas me dire, ah, OK, là, il y avait des choses, en fait. Et c'était un peu intéressant d'aller refouiller, oui, dans mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, etc. J'avais vraiment envie d'aller chercher un peu tous les endroits où ça aurait été possible d'être lesbienne ou de me dire lesbienne et où c'était pas possible en fait, et d'identifier les endroits où ça n'avait pas été possible. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai été élevée dans une famille très tolérante sur ces questions-là, j'ai pas vécu d'homophobie ou de lesbophobie de manière très frontale et violente dans mon enfance. J'ai évolué dans une société qui effectivement invisibilisait tout ça, mais j'ai pas de traumatisme, de violence à cet endroit-là. Mais il n'empêche que, comment se fait-il que je suis sûre qu'il y avait des lesbiennes autour de moi. Qu'est-ce qui faisait que ce n'était pas possible et pas visible, que les mots même n'existaient pas, alors même que j'étais dans un environnement plutôt avec qui ça n'était pas un problème. Donc c'est aussi se poser toutes ces questions-là. Comment on est empêché de se dire lesbienne, de voir des lesbiennes ? C'est même pas juste pour soi, c'est juste autour. Mmh. Et de voir que l'hétérosexualité est tellement forte, tellement puissante, tellement insidieuse, qu'en fait ça empêche de concevoir d'autres possibilités. Et je pense que j'avais aussi besoin de l'écrire parce que je suis assez convaincue que je ne suis pas toute seule et que moi j'ai eu la possibilité de me dire, en fait, peut-être que être bisexuelle ou être lesbienne en étape, hein, bien sûr, bah, c'est quelque chose de possible pour moi. Mais je pense qu'il y a plein d'environnements sociaux où c'est pas forcément envisageable même de penser ça, d'arriver à cette idée-là, à cette question-là même. Je pense aussi que la question de sortir de l'hétérosexualité en tant que régime, que structure de notre société, ça demande de pouvoir le faire d'un point de vue social et d'un point de vue matériel. On ne peut pas décréter comme ça du jour au lendemain, ah ben c'est bon, j'arrête l'hétérosexualité et je vais sortir avec des filles, ou même pas sortir avec des filles, mais juste j'arrête. Je pense que le poids du couple et le poids de l'hétérosexualité est encore tellement fort et tellement solide et tellement ancré que c'est possible dans certains environnements sociaux, ce n'est pas toujours possible. Et ça, il faut aussi l'admettre. On ne peut pas dire à toutes les hétéras débarrassez-vous de l'hétéro.
Bon,
franchement, ce serait super. Mais en fait, ce n'est pas possible. Il faut juste l'admettre de dire que dire à quelqu'un sortir de l'hétérosexualité, tu verras, ça arrangera tous tes problèmes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu auras d'autres problèmes. Je pense qu'il faut aussi penser à quel point c'est plus complexe, plus nuancé. Ça, c'est nécessaire aussi de l'adresser. Ce n'est pas quelque chose que j'adresse dans mon livre, justement parce que voilà, c'est ce format-là et que j'allais vraiment sur quelque chose de très personnel. Mais je pense que c'est intéressant aussi de penser en tant que Gwyn, en tant que féministe, que la question de l'hétérosexualité, en fait, on doit la penser de manière un peu multifacette et un peu plus complexe que de dire « Ok, c'est comme ça et toutes les femmes pourraient sortir de l'hétérosexualité. » Ce n'est pas vrai.
Et ton texte s'appelle Bancal et tu te dis lesbienne bancale. Est-ce que tu peux nous en parler ?
J'avais envie de reprendre ce terme de bancal parce qu'il vient d'une phrase qui est extraite d'une BD de Julie Delporte qui s'appelle Corps vivante, où elle parle justement de son parcours vers le lesbianisme, en tout cas vers la sortie de l'hétérosexualité. Et j'avais été hyper touchée par cette bande dessinée que je recommande très très vivement, et ainsi que tout le travail de Julie Delporte d'ailleurs. Et je trouvais que c'était un mot un peu tendre, en fait. C'était aussi pour rajouter ce truc de bancalité à mon lesbianisme. Ça me permettait de dire « Ok, j'ai peut-être pas le parcours exactement qu'il faut avec... je jouais au foot et j'étais un garçon manqué quand j'avais 6 ans. Je voulais absolument avoir les cheveux courts et ma maman, elle voulait pas. » Et voilà. Je sors des clichés involontairement et des clichés pour lesquels j'ai une tendresse infinie en plus. Mais voilà, j'avais envie de dire « Ok, bon, j'ai peut-être pas le vécu, le background lesbien attendu ou en tout cas que j'imagine qu'on attend, mais du coup peut-être qu'il est un petit peu à côté, peut-être qu'il est un peu bifurquant, peut-être qu'il est un peu pas logique, peut-être qu'il n'est pas classique, il n'est pas en ligne droite, mais du coup voilà, je pense que j'ai vraiment de plus en plus envie de me définir comme lesbienne et ça n'a pas non plus été, on le disait, hein, voilà, lesbienne s'approprier ce terme-là, c'est pas évident toujours. À titre personnel, Gwyn a été plus facile à s'approprier que lesbienne. Mais voilà, je pense que
j'arrive pas à savoir pourquoi, c'est étrange. Je crois que c'est aussi dans la sonorité du mot. En fait, lesbienne est rattachée beaucoup au porno,
ouais,
alors que Gwyn est encore neutre.
Ouais.
C'est bizarre, mais
et il est aussi très militant.
Nous, on y a mis des choses, ouais, mais ça a pas été repris par le, enfin par ça quoi.
Ouais, ce truc de se dire ok, avoir commencé par s'approprier Gwyn pour ensuite dire ok, lesbienne, ça peut peut-être le faire, mais voilà, on va encore bosser là-dessus. Je pense que c'est assez courant. Et voilà, et j'avais envie de dire qu'il y a plein de manières d'être lesbienne, et ça, c'est hyper cool aussi. Et de me dire, ouais, rien que pour moi, et sans me mesurer aux autres, ou sans continuer à me sentir illégitime, parce que ça, c'est un retour que j'ai eu pas mal de personnes qui ont lu mon texte, et qui me disent, oh, moi aussi, je me sens trop illégitime. Et je suis en mode, mais faut qu'on m'arrête avec ça. Oh là là, faut qu'on arrête avec ce truc d'illégitimité, parce que vraiment, faut qu'on se débarrasse de ça. Il y a vraiment plus urgent que de se dire, oh là là, je suis pas légitime comme lesbienne. Mais si, allez, move on, passe à autre chose. Vraiment, je pense qu'on gagnerait du temps à se dire, ne posons pas toutes ces questions de légitimité. Je le dis aussi pour moi. Hein. Donc, par rapport à cette idée de bancalité lesbienne, ouais, je trouvais ça amusant. Et puis voilà, j'aimais bien faire ce petit clin d'œil à Julie Delporte parce que je trouve que son texte avait bien résonné avec mon vécu. Et voilà, c'était un petit peu une manière de référencer. J'avais aussi pensé à une autre citation que finalement, je n'ai pas gardée. Mais il y avait un extrait de Minnie Bruce Pratt dans ILL qui est édité aux éditions Blast, qui a été traduit il y a un an ou deux, je crois. Ou pareil, voilà, elle questionne cette idée, est-ce que je suis une lesbienne aussi authentique que celles qui ont toujours su ? Je schématise vraiment cette phrase, ce n'est pas exactement cette phrase, mais je sais qu'il y a le mot authentique et cette idée de celles qui ont toujours su. Et moi, cette idée de cette question, cette idée, elle me parle beaucoup de est-ce qu'on est moins lesbienne quand on n'a pas toujours su, en fait ? Et je pense qu'il faut qu'on lutte pour dire bah non, en fait, on peut être tout autant lesbienne, même si on se dit lesbienne depuis 5 minutes.
D'ailleurs, le milieu a aussi un rôle à jouer là-dedans, parce qu'il y a aussi quand même de la biphobie, il y a un rejet aussi de justement cette lesbienne qui ne serait pas tout à fait parfaite comme il faut. On a un peu établi une espèce de truc...
On s'est mis la pression, en fait, je pense. Et du coup, on reproduit cette pression. Je pense qu'on en sort un petit peu. Je pense que petit à petit, quand même, on en sort qu'à la fois l'identité lesbienne est peut-être un peu plus valorisée qu'il y a quelques années, notamment chez les jeunes générations. Je parle vraiment comme une vieille personne. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes lesbiennes qui arrivent à assumer ce terme. Je pense que l'arrivée, ce drapeau qu'on voit de plus en plus ces dernières années favorise aussi un petit peu ça. Je pense qu'il y a une quête de se réapproprier ce terme, d'en faire quelque chose de beau. Donc, je pense que ça aide. Et puis oui, j'ose espérer que ces trucs de légitimité qu'on porte sur soi et en même temps qu'on reproduit sur les autres, on commence à s'en débarrasser.
Moi, je trouve que ton texte, il est important aussi par rapport à ça, justement. Je trouve qu'il met le doigt là-dessus et c'est assez important.
Merci.
Justement, on en parlait de la biphobie et tu parles de bisexualité dans ton texte notamment. Et on sait qu'il y a beaucoup de bisexuels qui ressentent de la biphobie dans le milieu lesbien. Est-ce que toi, tu en avais ressenti quand tu disais bisexuel ?
Moi, j'étais même pas trop dans le milieu lesbien à cette époque-là, donc pas ton, en vrai. Je pense que je regardais les lesbiennes avec énormément d'admiration, comme un truc de « moi, je serais jamais capable ». Again, sentiment d'illégitimité, nous y revoilà. Mais oui, je pense que j'avais un peu ce truc de « les lesbiennes sont capables de vivre sans le regard des hommes » et moi qui avais tellement besoin de validation et du regard masculin, parce qu'on t'a vendu depuis des années que c'est comme ça que t'étais une personne de valeur, a fortiori une femme qui mérite de l'attention et des regards. Donc je me disais « waouh, les lesbiennes, elles sont capables de vivre sans ça ». Bravo à elle, mais moi, je ne suis pas capable. Donc, je pense que j'avais un peu cette admiration-là, mais je ne fréquentais pas tant de lesbiennes que ça. Donc, je n'ai pas eu ce vécu-là. Mais oui, mais bien sûr que... Et même, ça se joue aussi chez des lesbiennes qui ont des expressions de genre féminines et du coup, qui vont être codées hétérosexuelles et qui arrivent dans un bar lesbien et à qui on dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es plantée. » Enfin, voilà, je sais que... On a forcément des potes à qui c'est déjà arrivé de se prendre ce genre de réflexion. Donc je pense que oui, il y a encore un peu cette pression un peu de chercher la vraie lesbienne derrière des codes qui sont parfois un peu trop hétéronormés, je mets des guillemets un peu dans les airs, que je décris du coup en audio description. À titre personnel, non, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu de biphobie à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que ouais, j'étais tellement intimidée par les lesbiennes, je trouvais ça vraiment trop cool d'être lesbienne et je me disais que j'aurais jamais la capacité de... Du coup, ça m'a mis un peu du temps avant de me dire lesbienne.
On l'a déjà pas mal évoqué, mais dans Bancal, tu parles du manque de représentation et du conditionnement à aimer les hommes. Et tu évoques la notion d'hétérosexisme. Alors, tu rappelles que l'hétérosexisme, dans le dictionnaire Anthropaine, il est défini par la sociologue Lynn Chamberlain comme l'ensemble des croyances qui valorisent et promeuvent l'hétérosexualité tout en intériorisant les sexualités non hétérosexuelles. Alors, à ton avis, bon, c'est une vaste question, mais qu'est-ce qui aurait été différent pour toi si tu avais évolué sans cet hétérosexisme ?
C'est une bonne question parce que ça remet quand même pas mal de choses dites et de non-dites en cause. En fait, je pense que c'est même pas à titre personnel que ça se serait joué. C'est que les personnes qui potentiellement auraient pu être lesbiennes autour de moi auraient elles aussi pu vivre leur orientation sexuelle ou leur couple ou leur histoire de manière... plus ouverte. Non, mais c'est une bonne question. J'en sais rien, en fait. Lever ce frein comme ça, pour moi, c'est vraiment la grande inconnue de qu'est-ce que serait ma vie. Parce que je dis aussi dans le texte, du coup, c'est que j'imagine très bien comment ma vie aurait pu rester dans l'hétérosexualité, en fait. Tu parles depuis tout à l'heure du côté insidieux de l'hétérosexualité. C'est la facilité aussi de l'hétérosexualité que je trouve assez fascinante, en fait. Moi, j'adore parler d'hétérosexualité. Enfin, vraiment, je trouve ça toujours très, très, très intéressant. J'ai écouté le podcast de Naomi Titi, justement, sur « Suis-je lesbienne ?» il n'y a pas très longtemps. Et justement, il y a un des épisodes qui aborde ça de manière très, très fine, très intéressante, je trouve, sur le confort de l'hétérosexualité, en fait. Ça rejoint vraiment à cette question de l'hétérosexisme, c'est que quitter l'hétérosexualité, c'est aussi quitter un confort. Et le confort, bah, quand on est dedans, on ne se rend pas compte qu'on est dedans, en fait. C'est pour ça que c'est si confortable, en fait. C'est vraiment c'est la question du privilège et d'être dans la norme. Et ben, en fait, il suffit d'en sortir et se dire « Oh, en fait, là, quand je suis avec la personne que j'aime dans la rue et qu'on se tient la main, il faut que je check si c'est safe pour moi. » Et ce n'était pas le cas quand je datais un homme. Enfin, voilà. C'est vraiment cette idée, quand même, qu'on passe dans une autre catégorie de population. Suivant l'endroit où on évolue, suivant quand on est chez le médecin, quand on est à son travail, quand on est avec sa famille. Donc c'est quand même une gymnastique pas possible de dire que je veux bien entendre on aime qui on veut et l'amour c'est l'amour. Enfin, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe concrètement de manière très matérielle, je veux dire dans nos vies, dans nos espaces, là où on évolue en fait. Enfin, si on se voit refuser un logement parce qu'on est en couple avec une femme, bon ben on aura beau dire l'amour c'est l'amour et on aime qui on veut, bon ben, c'est bien joli, mais en fait au final la partie va un couple hétéro et nous on n'a toujours pas de logement. Voilà, ça c'était mon petit truc. Anti l'amour, c'est l'amour, et arrêtons de dépolitiser nos identités. Mais voilà, qu'est-ce qui aurait été différent pour moi si justement on ne vivait pas dans une société hétérosexiste ? En fait, ce serait différent pour moi, mais ce serait différent pour tout le monde, donc c'est tellement vertigineux comme question. C'est qu'en fait, ce serait même pas juste moi à titre personnel, ce serait juste un autre modèle de société, en fait. Et j'arrive même pas à l'imaginer tellement on baigne encore dedans, tellement c'est tellement partout. Et c'est pour ça qu'on a encore tellement besoin d'émissions et de supports et de bouquins et de lieux et de plein de choses, en fait. Enfin, c'est nos îlots de soutien, c'est nos groupes de potes, c'est tout ça, en fait. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de valoriser cette idée de communauté, parce que pour l'instant...
Ouais, c'est une utopie pour l'instant.
Et en même temps, on a encore nos îlots et
nos endroits physiques et non physiques où on existe aussi hors de cet hétérosexisme-là, hors de cette société hétéropatriarcale qui est pourtant surprésente partout. Mmh. Mais oui, il y a un côté un peu utopique, oui. Je pense.
Du coup, est-ce que tu peux nous recommander, malgré tout, quelques références gwenesques ?
J'y ai pensé il n'y a pas longtemps, parce que j'avais vraiment adoré cette série. Je pense que je vais me la re-regarder il n'y a pas très longtemps. Tout le monde parle de The L Word, et moi, j'aime pas plus que ça, The L Word. Je déteste encore plus le reboot, que j'ai trouvé vraiment très nul.
Oui,
voilà, parenthèse fermée. Donc, je vous recommande vivement une série qui s'appelle Vida.
Oui, très voilà. Bonne série.
Qui était merveilleuse. Ce n'est que 2 saisons, malheureusement, mais c'était vraiment super.
Tellement plus subtil que L Word.
Extrêmement bien écrite, une diversité dans les personnages assez incroyable. Et ça abordait des questions d'identité lesbienne et queer, mais pas que. Ça parlait de plein de choses hyper intéressantes. Ça parlait de famille, ça parlait de deuil, ça parlait de gentrification de manière hyper juste, hyper intéressante. Ça parlait du fait d'être out, tout simplement. Même les persos hétéros étaient intéressants. Il n'y en avait pas énormément, mais même les persos hétéros étaient intéressants. Je veux dire, c'était pas des scènes qu'on passait comme ça. Les scènes de sexe étaient incroyables et il y en avait beaucoup. Donc vraiment, je vous recommande de la pirater, car je pense pas qu'elle soit disponible sur des plateformes légales en France. C'est malheureux. Puis en plus, elle a quelques années maintenant.
J'en ai jamais entendu parler.
Vraiment, il faut regarder Vida. Ouais, vraiment, il faut regarder Vida.
Très bien. Pour donner un avant-goût à nos auditeurs, on te propose de lire un passage de ton texte, donc bancal, et donc un passage que tu as choisi.
On m'a appris l'hétérosexualité dès toute petite. Ça tombe bien, parce que je suis plutôt du genre bon élève. Je suis de celles qui font la joie des instits, qui sont polies, discrètes, qui suivent bien les consignes, qu'on n'entend pas beaucoup en classe, qui sont faciles, pas insolentes. Les notes, c'est bien, que des A sur le bulletin, sauf en sport. Mais trop réservée, trop silencieuse. Je ne fais pas de vagues, je ne pose pas de questions, je ne veux surtout pas déranger. Je m'adapte. Et j'ai accepté l'idée que les adultes ont toujours raison sur tout, même pour des choses très bêtes. Le petit Florent t'embête ? Mais c'est parce qu'il est amoureux de toi. La règle est intégrée. Être embêté, c'est normal. C'est même savoir qu'on est désiré. Je ne veux pas déranger et pourtant j'ai besoin qu'on me voie. J'ai désespérément envie qu'on m'aime. Si on m'aime, c'est que je suis quelqu'un. Je crois au coup de foudre. Je crois à l'amour au premier regard façon Disney. Je crois au pour toujours et au à tout jamais. Et tout ce pataquès autour des sentiments, autour de l'amour, j'ai bien compris que c'est notre mission, à nous les filles. Les garçons ont le droit de s'en foutre. Leur indifférence ne les rend que plus attachants. Mais nous, c'est notre truc. On sait, c'est inné, c'est dans notre ADN. Il faut avoir un amoureux, il faut avoir des sentiments pour un garçon, il faut jeter son dévolu sur quelqu'un et sortir avec. Nous les filles, entre nous, on fusionne, mais on est juste des amis. Notre affection débordante, nos câlins, nos peaux qui se touchent, nos mains qui se tiennent, nos doigts entremêlés, nos bijoux en forme de cœur partagés, nos discussions au téléphone pendant des heures, nos à la vie à la mort, nos nuits dans le même lit, nos pactes secrets, nos je t'aime, nos lettres, tout est rangé dans la case amitié. Et celles qui ne sont pas des amies doivent être des rivales. Ils sont puissants, nos liens. Et pourtant, comme tout le monde, j'ai appris à faire la différence entre l'amour et l'amitié et surtout à hiérarchiser.
Super, merci. Ça donne vraiment envie de lire la suite.
Et alors, pour conclure, c'est quoi être Gwyn ?
Être Gwyn, c'est un truc merveilleux. Je changerais ça pour rien au monde dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment l'idée de vivre en accord avec moi-même. Et en accord avec les personnes qui m'entourent, de savoir que ma vision sur le monde est aussi liée à ça, le fait d'être à la marge. En tout cas, c'est un truc super.
Eh ben, merci beaucoup, Maëlle Lecor, d'avoir
merci
répondu
beaucoup
à nos questions.
Oui, merci.
Gwynement Lundi, votre phare dans la nuit.